Vous écoutez Fake Air Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram.
Coucou les filles! Alors aujourd'hui, j'avais envie de poser toutes mes questions à Laure sur son parcours entrepreneurial et je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire en vidéo, comme ça bah, vous aussi, vous pouvez tout savoir sur Laure et l'entreprise Comme un Diadème.
Bon bah cool, bah, j'ai hâte d'entendre tes questions, j'adore parler de Comme un Diadème ouais. Et de moi-même.
Bon bah c'est génial. Du coup d'abord, est-ce que tu peux me rappeler un peu comment tu t'es lancée Comme un Diadème, comment ce projet est né?
Dans ma tête d'abord, comment j'ai eu l'idée? Quand j'ai commencé à porter un volumateur, donc c'était il y a à peu près 7-8 ans, je suis allée dans des grandes enseignes en France et... je me suis vite rendu compte que les prix étaient très élevés. Et c'est à peu près la même époque où d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur YouTube, sur l'alopécie, sur les volumateurs capillaires, etc. Parce que c'est un sujet dont personne ne parlait. Donc j'avais un peu une communauté qui se créait autour de ça.
Mais toi, tu t'es sentie d'en parler vraiment de ton alopécie Comment ça s'est fait que tu sois lancée déjà
à en parler? En fait, c'est parce que justement, quand je suis allée dans les grandes enseignes et que j'ai vu les prix des volumateurs, c'était des prix assez importants. Et moi, j'avais une petite chaîne YouTube à l'époque où j'avais 1500 abonnés. Et je me suis dit, est-ce que je proposerais pas un partenariat pour faire une vidéo en échange d'un volumateur? Parce que quand on a une chaîne YouTube... Concrètement, on peut parfois contacter des marques en échange de partenariats. S'ils sont intéressés par notre profil, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Sauf qu'en les contactant, pour moi, vu le prix du produit, je pensais qu'ils ne seraient pas intéressés du tout et que jamais ils me répondraient. En fait. Enfin, vraiment, j'ai écrit mon mail parce que je me suis dit, il faut tenter le truc, mais jamais ils vont me répondre. Et je me rappelle m'être dit, si jamais ils me répondent oui, je suis dans la merde parce qu'il va falloir que je parle de mon alopécie sur YouTube. Et en fait, le problème, c'est qu'ils m'ont dit oui. Ils m'ont recontacté en me disant... Et entre-temps, j'étais allée dans une boutique essayer un volumateur. Donc, il y en avait un qui me plaisait. D'ailleurs, quand je les ai contactés, je venais d'essayer le volumateur en boutique. Et là, je me suis dit, t'as plus le choix. Tu vas pas leur dire, finalement, je me sens pas de le faire. En plus, l'idée d'avoir ce volumateur gratuitement, alors qu'il coûtait à l'époque 1 550 €, je me suis dit ça vaut le coup. Alors gratuitement, j'ai quand même fait 4 vidéos YouTube en échange avec 2 montages sur place avec mon père qui ont pris plusieurs heures, donc en fait ça a l'air gratuit comme ça, mais c'est contre plusieurs week-ends entiers de travail. Et rétrospectivement, en fait ça a été tellement rentable pour eux, ce partenariat, dans les retombées que ça a eu, la visibilité pour leur marque, qu'en réalité, contre un produit gratuit...
Mais pourtant, à l'époque, t'avais pas encore beaucoup de filles touchées d'alopécie qui te suivaient, non?
Ah mais j'en avais pas du tout. Enfin, ouais. J'avais une communauté de femmes qui me suivaient parce que j'avais une vidéo j'avais une chaîne YouTube sur la maternité. Donc quand j'ai lancé cette vidéo, il y a des femmes qui m'ont dit « Mais Laure, c'est incroyable parce que j'ai moi aussi une alopécie. Ça fait plusieurs années que je te suis, j'avais jamais remarqué parce que je faisais en sorte que ça se voit pas en vidéo. » Donc j'avais pas une communauté... 100% alopécie, mais j'avais des femmes qui me suivaient, et parmi ces femmes, j'avais des femmes atteintes d'alopécie qui l'ont découvert à ce moment-là.
Donc ça veut bien dire que vraiment beaucoup de femmes peuvent être touchées par l'alopécie, quoi.
Ouais, c'est environ, on dit, 20% des femmes. Et en fait, du coup, après, chez cette même enseigne, j'ai commencé à découvrir, parce que 1 550 €, c'était vraiment le produit bas de gamme que j'ai porté pendant plusieurs mois, voire un an. Et en fait, au bout d'un moment, quand ils ont vu le succès de mes vidéos, ils m'ont dit « Ah, mais en fait, le produit qu'on t'a fait porter, il est pas top. » Déjà, t'as envie de dire merci, c'est celui que vous aviez prévu de me vendre de base. Du coup, ils m'ont fait essayer des modèles qui étaient pour le coup mieux.
En cheveux naturels?
Toujours en cheveux naturels, mais avec base extensible, comme ceux que je vends chez Comme un Diadème. Okay. Sauf que ces modèles, ils étaient à 5 500 €. Et là, j'en ai eu un dans le cadre du partenariat où j'ai dû faire des vidéos encore. Mais je me suis dit, comment je vais faire pour après m'acheter ça, en fait. Et d'ailleurs, même les femmes à qui je parlais de ces produits, il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas se les acheter. C'était même compliqué pour moi, en tant qu'influenceur, de parler de produits à des prix comme ça. Mais en même temps, à l'époque, sur le marché, il n'y avait pas vraiment autre chose en offre de qualité et haut de gamme. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il existait des marques à l'international qui proposaient des super produits, type base extensible, beaux cheveux longs, couleurs magnifiques et tout, mais à des prix, à l'époque, à moins de 1 000 $. Et j'arrêtais pas de me dire, mais c'est tellement dommage qu'on ait pas ça en France. Et à force de me dire ça, je me disais, mais si t'avais les couilles, toi, tu le ferais, en fait. Et c'est comme ça que l'idée est venue dans ma tête, en fait. C'est à force de me dire, mais on n'a pas ça en France, c'est dommage. Ouais. De me dire, bah, là, il y a une opportunité business. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais dans la rue avec mon père. Et je lui dis, tu vois, quand je vois les reportages avec des gens qui lancent des boîtes et tout, et qui... ils ont toujours des super idées. Je me suis toujours dit que moi, j'avais jamais d'idée sur rien. Mais je lui dis, là, moi, je sais qu'il y a une opportunité en France. Il y a quelque chose à faire. Et je lui ai dit comme ça, si j'avais les couilles, je le ferais.
Et au final, tu les as eues.
Voilà, j'ai eu les couilles
et
de le faire.
En plus, c'est quelque chose qui te touche, toi, personnellement.
Bah, c'est qu'en fait, après, je me suis dit, bah, il fallait d'abord trouver une solution pour moi. Et du coup, c'est devenu aussi une solution pour les autres. C'est que je devais résoudre mon problème. Ouais. Et mon problème, c'était vouloir des produits haut de gamme et magnifiques, mais pas payer le prix d'une voiture d'occasion, quoi. Okay. Et du coup, c'est en voulant résoudre mon problème que, bah, après, je me suis dit, il faut que je rende ça accessible aux autres femmes, en fait.
Et du coup, ça a été quoi les étapes de la création de Common Diadem, du coup?
Les étapes, c'est déjà t'as l'idée. Après, t'as plusieurs mois où tu mets pas forcément en place tout de suite parce que moi, je travaillais en parallèle. Hein. J'avais un poste très prenant où je bossais 40 heures par semaine. En plus, j'alimentais ma vidéo YouTube toutes les semaines. Donc, je travaillais en plus le week-end là-dessus. Moi, je me disais, dans tous les cas, tu continues bien tes vidéos YouTube sur le sujet aussi parce que ça te permet d'avoir vraiment une communauté qui sera peut-être prête à te soutenir après. Et donc les étapes, ça a été ensuite de chercher des fournisseurs. Donc ça a duré quasi un an de chercher, trouver les bons fournisseurs parce que j'avais aucune idée de où ils étaient, qui faisait de la qualité, qui faisait pas de la qualité, comment donc, avoir des jolis modèles. Surtout, ce que j'ai dû faire, c'est tester parce que chercher des fournisseurs, c'est possible. Mais après, il faut tester, il faut recevoir des modèles, dire bah ça, c'est qualité, ça, c'est pas qualité. Et aussi apprendre à reconnaître un produit de qualité parce que quand on démarre, on ne sait pas reconnaître un produit de qualité. Et je pense que même la majorité de mes clientes aujourd'hui ne savent pas forcément reconnaître un produit de qualité. C'est quand on a 1, 2, 10. Moi, il y a des trucs de qualité que j'ai vus au bout d'un an que je n'avais pas compris tout de suite que certains modèles que j'avais commandés, je ne sais pas, au bout de 6 mois, je me rends compte après, en trouvant des meilleurs fournisseurs, qu'en fait, il y a un truc qui n'allait pas dans le modèle, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce que ça a l'air simple, on se dit c'est des beaux cheveux, mais en fait non, il y a beaucoup de critères pour que le modèle soit de qualité. Il ne faut pas qu'il ait des fourches, mais il y a plein de détails aussi. Par exemple, j'avais des modèles qui faisaient plein de petits cheveux qui ressortaient, tu sais, au niveau des longueurs.
Okay,
et je ne l'avais pas vu, c'est pas vraiment des fourches, mais c'était sur toute la longueur. Et moi, je reçois le modèle, ça c'est quand j'étais dans mes phases de test, je trouvais qu'il était super joli parce qu'il était beau. Et puis je le lave... Et je vois ça et je me dis, bah, je comprends pas, en fait. Enfin,
tu les as testés combien de temps, en général
Pendant un an, à peu près, j'ai fait des tests. J'ai fait des lavages aussi.
Ok, c'est bien.
C'est-à-dire, j'ai commandé des modèles, j'ai dû les laver 15-20 fois pour être sûre que la... Parce que t'achètes des choses et tu te dis, bah ouais, mais moi, si je vends ça 800 € à une cliente et qu'au bout de 2 mois... il est devenu vert. Enfin, en fait, on ne sait pas sur le coup. Donc, il a fallu que je teste quand même un peu dans la durée pour ne pas me lancer à vendre des produits à 1 000 € sans savoir comment ils allaient durer. Donc, il a fallu aussi faire des tests accélérés.
Donc, tu les portais aussi tous les jours ?
Il y en a un, ouais. En fait, quand j'ai commencé à commander chez les fournisseurs, je me suis d'abord servi moi. C'est-à-dire que c'est des modèles que j'ai portés et dont j'ai pu vérifier sur la durée qu'ils étaient bien. Mais après, je ne pouvais pas tout porter non plus. Donc, quand c'était des couleurs que je n'avais jamais, moi, testé et tout, bah, tester la durée d'une couleur, il faut quand même du temps. Donc, même si moi, j'ai pu porter pendant 7-8 mois mon propre modèle, qui était à la base un brun, que j'avais passé en blond en plus, enfin bref. Il a fallu sur certains modèles que je fasse des tests un peu en accéléré pour pas lancer la boîte dans 4 ans, pour dire bon bah mes volumateurs ils durent 3-4 ans.
Mais du coup t'as investi quand même un peu d'argent pour acheter, t'as acheté à combien de fournisseurs tes produits?
Des fournisseurs, honnêtement, dans l'histoire de la marque, j'en ai testé plein. Depuis le début de la marque, au moins une vingtaine.
Ok.
Au moins.
C'est
j'ai
beaucoup.
Même pas à souvenir de tout, en fait, mais avant de lancer, je dirais une dizaine, et après, moi, j'ai continué à toujours chercher à avoir mieux. Même encore actuellement, ça m'arrive encore de tester des nouveaux fournisseurs, ou de trouver que bah, tel fournisseur, voilà, il est bien, mais voilà, il y a un truc qui me dérange un peu. C'est aussi un travail auprès des fournisseurs pour qu'ils améliorent leurs produits en continu, parce que des fois, c'est des jolis produits de qualité. Mais je vais remarquer telle ou telle chose et je vais leur dire attention, il y a ce point-là que je veux voir améliorer.
Okay.
Parce que voilà, c'est pas non plus, t'as un fournisseur, il y a un truc qui te plaît pas, tu changes, tu vires. On peut aussi travailler en collaboration pour qu'ils améliorent leurs produits. Et moi, mes fournisseurs, ils savent quels prérequis j'ai moi en tant que marque. Certainement qu'ils travaillent avec d'autres marques. Mais moi, je vais leur dire, bah, moi dans un modèle, je veux pas ci, je veux pas ça. C'est important qu'il y ait ci. Et je suis hyper...
pointilleuse.
Ouais. Parce que je me dis, c'est des produits qui coûtent aux femmes 1 500 €. Il doit être nickel, en fait.
Ouais, ouais, du coup, tu es toujours dans l'amélioration, au final, de ce que tu proposes.
Bah, j'essaye, ouais. En tout cas, bah, après, moi, là, les modèles, je les trouve au top. Mais si un jour, je reçois des modèles où je vois un truc qui ne me plaît pas, je vais leur signaler, je vais leur dire, voilà, il y a ça. C'est du détail, là, maintenant, parce que maintenant, ça devient du détail, mais c'est vrai que la première année avant que je lance comme un diadème, c'était pas du détail. Moi, j'ai reçu des trucs, ça allait pas du tout.
Ok. Et du coup, après l'étape fournisseur, comment t'as fait en fait? T'as fait le site internet?
Il a fallu construire le site. Donc moi, j'y arrivais pas du tout toute seule. Donc je me suis fait aider à l'époque par un ami pour construire le site. Ça a pris beaucoup de temps, surtout que j'ai construit le site. Mon fils venait de naître. Donc il avait. J'ai commencé. Il avait un mois, parce qu'il est né le 1er décembre et j'ai commencé la veille de Noël, le 24 décembre.
T'étais très motivée.
Ah ouais, j'étais à fond. J'étais à fond, mais le 24 décembre, je me revois en train d'avoir des conversations avec cet ami-là, lui dire voilà, je veux lancer un site et tout. Et en fait, après, ça a pris 2-3 mois à construire le site, sachant que lui, il est développeur, donc il s'y connaît un petit peu. Il a pu m'aider, mais après, il a fallu choisir les transporteurs. Et puis, il fallait tout choisir, quelles options de paiement, Payplug. Enfin, tu vois, sur un site, il y a plein de trucs. Et puis, moi, je connaissais rien au e-commerce. Ouais. Tu vois, écrire des conditions générales de vente.
Et comment t'as fait, du coup, pour savoir tout ça? Tu t'es renseignée, t'as lu
De la débrouille, en fait. C'est genre, qu'est-ce qu'il faut? Tu tapes sur Google... obligation sur un site de e-commerce, tu vois qu'il y a des mentions légales. Ah, c'est quoi des mentions légales? Moi, j'en étais à un stade, je ne savais même pas c'était quoi des mentions légales. Ah, c'est quoi des RGPD? Il faut qu'il y ait des RGPD sur un site. Ah, c'est quoi les obligations en termes de transport? Après, à un moment, je me dis, au début, je comptais vendre qu'en France, mais je me rendais bien compte que j'avais plein de filles qui m'écrivaient de Belgique, de Suisse. Est-ce que tu vas vendre en Belgique, en Suisse? Donc là, je me dis, est-ce que je me tenterais pas tout de suite de vendre à l'international? Sachant que moi, par exemple, je travaillais avec La Poste à l'époque. J'avais un commercial de La Poste qui venait tout le temps chez moi. Et il me disait, non, mais je vous conseille pas de vous lancer sur l'international tout de suite. C'est trop compliqué et tout. Je lui dis, tant qu'à faire, envoyer un colis en Belgique, c'est pas si compliqué. Et du coup, en fait, il a fallu que je me renseigne sur tout de A à Z. Ouais. Après, j'avais mon ami qui me disait, oui, tu dois avoir des trucs mentions RGPD. Okay. Je lui disais, c'est quoi RGPD? Moi, je sortais vraiment de... J'y connaissais rien, donc c'est sur tous les points, tu te renseignes, même sur des trucs à la con, mais quel statut d'entreprise choisir?
Il y a plein de trucs.
Comment
à
on facture? Moi, je suis arrivée dans ce monde-là, je ne savais pas qu'au début, il fallait facturer hors taxe quand tu étais auto-entrepreneur, avant un certain plafond, et qu'après, il fallait facturer de la TVA. Enfin, vraiment, je sortais de... Donc, il a fallu se renseigner. Moi, des fois, c'était même en pleine nuit... Je me réveillais avec mon bébé là à minuit et jusqu'à 2h du mat, je lisais des trucs sur comment on facture une TVA, à partir de quand, comment on la déclare.
T'étais vraiment animée par ton entreprise, ton projet.
J'étais animée par l'entreprise et le projet et surtout j'étais toute seule. Donc personne ne pouvait me renseigner. J'avais pas à l'époque un comptable, personne, donc je me suis débrouillée avec les infos, Google est ton ami dans ces cas-là, et j'ai énormément appris, mais surtout sur les douanes, sur les systèmes de facturation, sur la comptabilité, toute seule en fait.
Ouais, c'est quand même c'est énorme tout ça.
Ça a été la première année, énormément de travail, surtout que c'était l'année en plus du Covid et que tout était fermé. Donc après, je me suis retrouvée avec mes deux enfants à la maison, H24, à lancer le site en même temps.
Ouais, t'es une Wonder Woman. Bah,
en fait, j'avais l'énergie. J'étais tellement passionnée par ce truc-là que j'ai donné une énergie à ce moment-là qui est complètement dingue. Et avec le recul, je me rends compte, je sais pas, je devais travailler 15 heures par jour, mais je le faisais sans réfléchir, je le faisais par plaisir. C'est genre, t'as un projet, tu dois le lancer, il y a ci, il y a ça, faut que ça marche. Et je sentais que ça marchait en plus, parce que moi, les clientes, elles commençaient à vouloir acheter avant le lancement du site.
Parce que du coup, tu continuais à faire des vidéos YouTube, à parler de ta marque. Comment t'as fait pour trouver tes premières clientes?
Ben, elles sont venues toutes seules à moi, Quand j'ai annoncé que j'allais lancer ma marque, je l'ai annoncé 2-3 mois avant, je l'ai annoncé le 1er janvier. Là, les clientes, elles venaient me voir, elles me disaient « Est-ce que je peux t'en acheter un avant le lancement du site ?» Du coup, j'ai commencé à le faire avant le lancement. Alors, l'entreprise existait déjà depuis plusieurs mois, parce que j'avais dû la créer avant. Et ça m'a permis déjà de me rendre compte que le projet, il était viable, parce que je vendais avant même le lancement. Et surtout de réinvestir pour avoir plus de modèles pour le lancement. Parce que moi, au départ, j'avais investi de l'argent à moi, mais j'avais tellement peur que de ne pas vendre que c'était compliqué d'acheter énormément de volumateurs et de me dire, ça se trouve, je ne vais pas les vendre. Mais quand j'ai vu que les clientes, elles commençaient à me les acheter avant qu'ils soient sur le site, elles m'ont donné l'argent qui m'a permis de, le jour où j'ai lancé le site, je ne sais pas, il devait y avoir une quarantaine de modèles sur le site, alors qu'au départ, j'avais prévu d'en mettre 5.
Ouais, ça a été la surprise pour toi au final. Tu pensais pas que ça allait aussi bien marcher dès le début.
Ouais.
Mais du coup...
Et personne n'y croyait autour de moi. Mes parents, ils y croyaient pas. Ils me l'ont dit maintenant. Ils m'ont pas dit à l'époque. Oui, mais ils se sont dit, on la laisse dans son délire. Mmh. Mais pas ça va se planter. Mais ils y croyaient pas.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'en plus, tu t'étais pas du tout dans ce domaine-là.
J'étais pas dans ce domaine-là. Et puis surtout, ils se disaient, elle perd ses cheveux, elle porte un volumateur, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Donc, sauf que moi, je sentais, je savais. Moi, j'avais toutes les femmes qui m'écrivaient depuis un an au quotidien et je sentais qu'il y avait un intérêt, en fait.
Il y avait un truc à faire. Est-ce qu'au début, il y a des choses auxquelles tu n'as pas forcément pensé de suite? Parce que c'est vrai que quand tu crées une entreprise et que tu n'es pas trop dans le domaine...
Choses auxquelles j'ai pas pensé. Enfin, j'ai pas pensé que au bout d'un moment je devrais facturer de la TVA. Ouais. Donc mes prix n'étaient pas calculés en fonction de ça. J'ai pas pensé que c'était une entreprise où il y avait des grosses charges parce que les volumateurs coûtent cher et que donc le statut d'auto-entrepreneur il serait pas du tout adapté parce que j'allais payer beaucoup d'impôts mais j'allais rien pouvoir déduire en tant qu'entreprise. Donc moi je me suis équipée à acheter des imprimantes, à acheter plein de choses. J'aurais pu déduire la TVA de tout ça et je ne l'ai pas fait. Et pendant un an, j'ai tout acheté donc sans rien pouvoir déduire. Donc il y a plein de trucs auxquels je n'ai pas pensé. Je me rendais compte des problèmes au fur et à mesure.
Ouais, quand tu les découvrais, quand tu disais « Ah mince !»
c'est ça. Ou même en termes de conditions générales de vente, quand tu as un retour où il se passe ci, ça, tu dis « mince, je n'avais pas pensé à mettre ça. » Donc j'avais anticipé beaucoup de choses parce que je suis pas non plus une fille qui fait n'importe quoi, n'importe comment. Mais il y a aussi énormément de choses. Le statut de la société qui avait été mal choisi, la TVA qui allait arriver que j'avais pas pris en compte dans les prix. Parce que le problème, c'est que au bout d'un moment, un auto-entrepreneur, il doit facturer la TVA. Donc en fait, le prix, il est plus élevé pour le consommateur. Sauf que moi, c'est arrivé tellement vite, étant donné que les volumateurs, ils se sont bien vendus, que d'un seul coup, je me suis dit, mais mince, en fait, mes produits, je vais devoir les augmenter quasi de 20%, parce que maintenant, je facture de la TVA, sauf que j'avais habitué les clientes à avoir un prix hors taxe. Et si j'avais su qu'au bout de 3 mois, j'allais passer le plafond... j'aurais peut-être mis dès le départ les prix comme ça parce que ça fait déjà une augmentation de prix importante que beaucoup de clientes n'ont pas compris.
Ouais, c'est des choses à savoir, mais du coup, tu as appris toi toute seule. C'est, C'est énorme, je trouve, franchement. Pour moi, il y a plein de choses.
Bah, franchement, l'expérience entrepreneuriale, c'est ce qui... Alors, je dirais pas que c'est ce qui m'a le plus appris dans la vie, parce que j'avais avant un doctorat en microbiologie. Donc, en microbiologie, j'ai appris énormément de choses aussi. Mais en tout cas, sur même les règles françaises en termes d'économie et tout, ça m'a énormément appris. Moi, je savais pas que... Alors, parce que j'étais très inculte, hein, je pense, mais que les entreprises, elles achetaient les produits hors taxes sans qu'elles pouvaient déduire la TVA. Je ne savais pas. Donc, évidemment que je n'avais pas anticipé que tous les trucs que j'achetais à taux plein, j'aurais pu déduire la TVA.
Ouais. Mais bon, c'est vrai que tu étais dans la science, donc c'est pas du tout...
Ouais, j'étais dans la science, j'étais à fond dans mon domaine. Ouais. Et bon, je pense qu'il y avait un peu d'inculture sur certains points. Même les exportations hors UE et tout. Tu vois, ce que je t'expliquais hier, que quand tu exportes un produit hors UE... ça fait sauter la TVA et tout. Enfin, c'est des choses, moi, je ne le savais pas. Enfin, je n'avais pas le détail. Donc, il a fallu, et souvent, c'était en pleine nuit, quand j'avais du calme, dire, alors, comment on vend un produit hors Union européenne ? Parce que tu ne peux pas te lancer à vendre des produits puis dire après, bah, si un jour, il y a les douanes françaises qui viennent me chercher, je vais devoir leur expliquer ce qui se passe dans mon entreprise. Il faut que ce soit carré, en fait.
Ouais, c'est clair, il y a plein de choses à penser. Du coup, toi, c'est quoi tes plus grosses bêtises ? Les bêtises que tu as faites dans l'histoire de Comme un diadème.
Les plus grosses bêtises que j'ai faites, j'en ai fait beaucoup. Y a une fois où j'ai deux clientes, une aux États-Unis et une à La Réunion, qui m'ont commandé un modèle, chacune, et j'ai inversé les deux. Et du coup, chacune s'est retrouvée avec le mauvais colis, et la bêtise m'a coûté 600 euros parce qu'il y a eu des frais de douane ou je sais plus quoi, je sais plus ce qui s'est passé. Mais donc, les colis sont revenus, mais moi, ça m'a coûté 600 euros. Ouais. Donc ouais, ça a été une énorme bêtise. Maintenant, je fais hyper attention. Enfin, je fais toujours hyper attention, mais surtout quand c'est des colis à l'étranger, j'essaie de plus faire ça. Et après, grosse bêtise, c'est pas vraiment des bêtises ponctuelles, mais c'est de mal m'entourer. C'est-à-dire de travailler avec des gens parfois pas professionnels et qui, au départ, ont pu me faire faire des économies, mais après m'ont fait perdre énormément d'argent parce que ami d'un ami, parce que ci, parce que ça. Et au final, tu te retrouves à dépenser des sommes et avoir en retour un service qui n'est pas à la hauteur.
Donc maintenant, tu sais repérer ce genre de personnes, enfin... Ou alors tu sais mieux t'entourer.
Bah, je fais plus attention. Je fais plus attention à... Je pense que c'est important de choisir de travailler avec des entreprises fiables et de vérifier ça dès le départ. Ouais. Parce que quand il y a que des choses qui commencent à pas fonctionner et qu'on n'ose pas le dire et qu'on attend... j'ai dû attendre plus d'un an pour qu'on me mette en place un système de génération automatique d'étiquettes. Parce que la personne, elle n'avait pas le temps pour moi, en fait. Alors que je la payais. Et j'ai dû payer... franchement, je crois que pour qu'on mette Colissimo sur mon site, alors que la Poste le fait gratuitement, j'ai dû payer 3000 euros. Et c'était toujours pas fait au bout d'un an. Et moi, j'avais mon bébé dans les bras. Après, j'ai eu ma deuxième fille. Et j'étais là à faire les étiquettes manuellement. Donc, des trucs comme ça, pour moi, ça, c'est les grosses erreurs. Pareil, j'ai choisi un mauvais comptable et du coup, j'étais obligée de vérifier la comptabilité derrière lui. Et en fait, l'erreur, c'est pas de choisir un mauvais comptable parce que ça, on ne sait pas d'avance. Mais c'est de, quand on voit qu'il commence à y avoir des erreurs, de laisser traîner parce que pas le temps de changer, parce que c'est compliqué, parce que ça va le vexer. Laisser un comptable nous parler mal. Et maintenant, je me dis, quand il y a un truc qui pose problème avec un prestataire... faut que ça dégage tout de suite parce que moi, ça me fait perdre du temps, de l'énergie. Par exemple, le passage des ventes à l'international, le passage de mon site en anglais, il a été repoussé de un an à un an et demi à cause de quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Moi, j'avais l'énergie de faire les vidéos, j'avais l'énergie de passer mon site en anglais, de tout faire pour développer. Et à cause de cette personne, j'ai perdu un an. Mais un an sur un marché international, c'est énorme. C'est énorme. Donc j'ai perdu, je pense, à cause de gestion, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énervement. Les recrutements aussi, faire attention au recrutement. Parce que juste dire « Ah ben, ça a l'air sympa, allez !» et être trop gentille. Enfin, voilà, c'est franchement des erreurs, j'en ai fait. Bah, c'est simple, j'ai l'impression que je l'ai fait à tous les niveaux. Ouais. Et c'est, bah, c'est comme sur les volumateurs, c'est amélioration continue. C'est bon, bah là, t'as fait telle connerie. Bon, bah, comment tu fais la prochaine fois pour que ça se passe mieux ?
C'est et... bien, c'est. Au final, tu vas finir parfaite.
Je pense pas quand même, parce que j'en fais quand même encore. Mais c'est vrai que, ouais, il y a tellement de domaines. Alors là, c'est des bêtises vraiment générales sur l'entreprise. Mais après, des bêtises. Après, il y a aussi, alors ça, c'est arrivé très, très rarement, mais. Des filles qui me disent « Ah alors, ouais, tu pourrais me renvoyer ci ou ça parce que j'ai un petit problème de clip ou quoi. » Ok, ok, je le fais et je le note pas. Et j'oublie. Donc des fois, un léger manque d'organisation sur certaines choses, alors que de base, je suis quelqu'un, je dis souvent je suis pas organisée, mais je suis très organisée. Mais bah, des fois, tu gères plein de trucs en même temps. Moi, des fois, je regarde mes messages Insta, je suis là en train de faire une coloration, je me dis « Ah, faudra pas que j'oublie de le noter. » Et en fait...
Tu t'éparpilles un peu.
Ouais, voilà, je m'éparpille et surtout, je me fais trop confiance. Genre, je m'en souviendrai.
Ouais.
Donc ça, ouais, grosse bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Mais j'en ai fait plein, mais... Bah, en fait, l'entrepreneuriat, ça te met face à beaucoup de problèmes de ta propre personnalité. Ouais. C'est-à-dire, les failles que tu as dans ta personnalité, elles vont rejaillir dans ton entreprise. Ouais. Donc, autre problème, bon, c'est pas une bêtise, mais trop se laisser faire par les clientes.
Ouais, c'est vrai que...
Moi, tu me connais maintenant, je commence à me faire un peu respecter, mais il y a 3 ans, c'était n'importe quoi. Les clientes, elles me faisaient réserver des modèles pendant 1 mois, au final, elles venaient pas, elles me l'achetaient pas, elles me prévenaient pas, enfin, c'était vraiment mettre des limites claires aux prestataires, aux clientes, à tout le monde et à soi-même, se faire, faire respecter sa marque, c'est important. Ouais. Après aussi, erreur, pas me faire aider.
Ouais.
Mettre autant de temps pour me faire aider, tu vois, par toi, par quelqu'un, vouloir tout faire, tout gérer. Et...
Ouais, du coup, j'imagine que tout ça, ça te fait grandir aussi toi intérieurement. Enfin,
un peu, ouais. Je dis un peu parce que ça prend du temps, mais oui, j'essaye. J'essaye, dès que je fais une erreur, de me dire, bon, pourquoi ça s'est mal passé ? Parce que c'est pas toujours que de la faute de l'autre. Hein, souvent, et c'est moitié-moitié quand il y a un problème. Donc,
C'est bien de se remettre en question aussi.
Ouais.
Du coup, merci Laure, je vais te couper et on va reprendre.
Mais comment ça,
tu
vas me couper ? J'ai encore envie de parler. J'ai encore des choses
mais
à dire.
Mais oui, je sais, mais on va reprendre ça dans une autre vidéo.
Ok.
Voilà.
Bon, bah à la prochaine.
À la prochaine.